Chiffre qui remonte au mois de septembre. Au mois de septembre, 21% des salariés ont été au moins un jour en télétravail. 8% d'entre eux ont travaillé tous les jours de la semaine durant ce même mois de septembre. Sandrine Foulon, est-ce qu'on peut dire que le télétravail comme usage, donc là 21% c'est quand même 1 sur 5, s'est installé à la faveur du premier confinement? Est-ce que c'est cet événement qui a fait que cet usage est maintenant devenu commun?
Oui, c'est indéniable que la pandémie a vraiment marqué un avant et un après. Avant, on était à peu près à 3-6% selon que les gens travaillent une fois par semaine et de manière régulière ou occasionnelle. On a pu monter à 44% avec des gens à 100% en télétravail. Là, vous avez rappelé les chiffres, on est redescendu. On va encore redescendre parce qu'on avait vu entre deux confinements, on était descendu à 10%. Donc on voit qu'on reprend les bonnes habitudes d'avant. Maintenant, on ne reviendra pas à l'étiage d'avant. On va se maintenir on verra 10-15% de télétravailleurs.
Bertrand Martineau, est-ce qu'on peut et à combien on évalue le nombre de travailleurs qui peuvent télétravailler dans l'économie française?
Alors, il y a un certain nombre d'études sur le sujet, mais on s'accorde à dire qu'il y aurait environ 40% en France, 40% de métiers qui seraient télétravaillables. Mais être télétravaillable, ça veut dire techniquement télétravaillable. Ce n'est pas parce qu'un métier est techniquement télétravaillable qu'il doit forcément être télétravaillé. Et on y reviendra, j'imagine. Ça dépend du secteur d'activité, ça dépend de la relation avec le client, ça dépend de la culture de l'entreprise, ça dépend sans doute de la taille de l'entreprise. Voilà. Mais techniquement, ce serait ça. On est parmi les autres pays, si on se réfère aux mêmes études, c'est le CDE, McKinsey et autres, on serait plutôt dans la moyenne, on serait très inférieur spontanément aux Scandinaves, danois, suédois, finlandais qui télétravaillaient déjà plus avant la crise, et on serait un peu plus télétravailleurs que les Allemands et les pays d'Europe du Sud, mais pour des raisons culturelles, on y reviendra sans doute, mais aussi pour des raisons de structure de l'économie, c'est-à-dire que plus l'économie est intensive en technologie,
vous allez trouver,
de la communication et de l'information,
plus c'est numérisé, en gros, plus on travaille dématérialisé,
plus on est dans le tertiaire supérieur en fait, plus l'économie est dématérialisée, immatérielle, et plus on télétravaille. Inversement, les économies où il y a encore beaucoup d'agriculture, beaucoup de services de santé, beaucoup
les transports,
ce qu'on a appelé les premiers de corvée.
Le tourisme, le tourisme, c'est pas forcément télétravaillable. Et là, sont évidemment derrière.
Pascal Diby, cette évolution, elle vous paraît inéluctable? Enfin, c'est une transformation professionnelle presque anthropologique à la fin.
Je pense qu'il faudrait vraiment se mettre à y songer sérieusement. Et je suis un peu étonné qu'on n'ait pas profité justement de cette première mise à pied, d'une certaine façon, d'une grande partie des bureaux pour commencer à réfléchir par rapport au désir des gens, d'ailleurs, de vouloir en flexi-travail, d'être autrement et traité et fonctionné. Et je suis très étonné qu'il n'y ait pas eu vraiment une sorte d'assemblée générale, de quelque chose. Il y a une réflexion. Qu'est-ce que le bureau? Qu'est-ce qu'on y fait? D'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, le bureau, il faut obéir. Oui, le bureau, il faut s'engager. Oui, le bureau, on y appartient. Et en même temps, comment est-ce qu'on fait pour fidéliser des gens? C'est une grande question, d'ailleurs, des entrepreneurs aujourd'hui. Vous avez vu, au retour de la première pandémie, ils se posaient le problème de comment attirer à nouveau les gens dans le bureau. Alors on allait faire des fêtes, on allait tirer les rois, on allait... C'est drôle, c'était comme des pots de départ, mais c'était des pots de retour.
Des pots d'arrivée.
Oui. Sandrine Foulon, on l'a bien vu après le premier confinement, qui veut faire du télétravail? Est-ce que c'est l'employeur qui désire que les salariés fassent du télétravail, ou l'inverse? Est-ce qu'on peut trancher ou c'est mêlé? Parce que depuis que la France connaît ça, on a l'impression justement d'un mélange de volonté et de crainte, à la fois chez le salarié et chez l'employeur.
Déjà, en termes juridiques, c'est l'employeur qui propose. Le salarié peut refuser, sauf en cas de force majeure, comme une pandémie ou autre, mais quand même, ça reste quand même une discussion à deux. Après, ce qu'on a vu, c'est que globalement, il y a eu des quantités phénoménales d'études qui ont été faites avec des résultats parfois contradictoires. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux sortes de télétravail. Il y a le télétravail subi, contraint, qu'on a vu pendant la pandémie, où des gens ont pu souffrir, travailler dans des conditions dégradées. Et puis, il y a le télétravail classique. Mais qu'on soit hors confinement ou dans le confinement, majoritairement, les gens veulent du télétravail, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'ils disent, on veut bien 2-3 jours, on veut bien que ce soit encadré, on veut des conditions, savoir qui paye la ramette de papier,
qui va payer
le siège, le bureau, le chauffage,
l'électricité.
Voilà, donc tout ça, les gens le demandent. Après, on a pu voir aussi, en termes de management, que le télétravail, ça n'a pas toujours été simple et que les employeurs ont parfois hyper contrôler les salariés. Donc voilà.
On se souvient même d'histoires de logiciels de surveillance.
Absolument.
Dont on parlait beaucoup.
Donc en fait, ça c'est la verticalité du management français qui perdure, y compris dans le télétravail. On a besoin de contrôler. Donc les gens disent oui au télétravail, mais pas au détriment de leur santé, au détriment de leurs conditions matérielles. Donc
et on peut évaluer, Bertrand Martineau, la productivité du télétravailleur. Est-ce qu'on travaille mieux quand on est chez soi
Il n'y a pas de réponse générale. Parce que quand on parle de productivité, qui est un sujet très important, je rappelle, la productivité, c'est ce qui, quand même, c'est ce qui est le moteur de l'économie, c'est ce qui est le moteur de la croissance et du pouvoir d'achat. Donc ce n'est quand même pas des petits sujets. C'est peut-être même le sujet le plus important de l'économie. Et en fait, vous avez plusieurs effets. D'abord, est-ce que le télétravail rend le travail plus efficace? C'est-à-dire, en une heure de travail, est-ce que vous êtes plus efficient? Et là, ça dépend énormément du secteur d'activité, ça dépend de la situation. Bon, on a tous l'expérience que souvent les réunions en télétravail sont plus courtes, parce qu'elles sont contraintes par des impératifs. Voilà. Il y a beaucoup de secteurs dans le tertiaire supérieur où il y a des études qui montrent qu'on gagne en productivité. De ce point de vue-là, c'est-à-dire productivité horaire. Puis il y a d'autres endroits, peut-être majoritaires, où c'est assez neutre sur la productivité horaire. Il y a un deuxième effet, c'est le temps de travail. Parce qu'en fait, même si vous n'êtes pas plus efficace pendant une heure, si vous travaillez davantage, évidemment, vous produisez plus. Et là, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que globalement, une partie des temps de transport économisés est rendue, en fait, sous forme de temps de travail. Alors, c'est particulièrement vrai pour les salariés qui ne sont pas à une définition horaire. Donc, en particulier les cadres et les cadres au forfait. Il est assez avéré que les cadres, en particulier les cadres au forfait, travaillent plutôt plus en situation de télétravail ou moins. Alors, ça te pose d'autres questions sur la charge de travail, etc. Mais globalement, il semblerait que la productivité soit neutre, soit plutôt favorisée. Et de toute façon, je vais vous dire quelque chose. Dans les entreprises où la productivité sera négativement affectée par télétravail, eh bien, le télétravail ne se développera pas.
Parce qu'elle dit bien, à chaque vague, on voit que les pays du nord de l'Europe passent plus naturellement, plus facilement, comme on l'a vu là avec le Premier ministre belge, au télétravail. Est-ce qu'il y a une spécificité française, une espèce de culture du bureau qui nous distinguerait et qui fait qu'on a plus de difficultés, nous, à prendre cette nouvelle pratique?
Je pense que c'est la grande différence entre les pays protestants et les pays catholiques. Ça fait une grande différence. C'est-à-dire que l'habitude, effectivement, de pouvoir discuter, d'avoir confiance dans l'autre. Or, tous nos systèmes, toutes les lectures qu'on peut faire actuellement des articles concernant le télétravail, on voit qu'il y a toujours une espèce de méfiance des employeurs de mettre les employés au travail chez eux, parce qu'on n'est pas certain qu'ils travaillent le temps qu'on aimerait qu'ils travaillent, etc. Donc, cette espèce de
rapport... télétravail, surtout télé.
Méfiance, ça tient aussi à la décroyance, d'une certaine façon, au sens où on ne croit plus tellement dans ce qu'on fait. C'est-à-dire cette façon, à nouveau, de prendre du recul par rapport à son propre travail. Et actuellement, on est quand même dans une époque où les gens plus jeunes qui se mettent au boulot, qui commencent à travailler, ont une vision du travail qui n'a plus rien à voir avec le système hiérarchique dont vous parliez tout à l'heure. Mais on est en train de sauter les intermédiaires hiérarchiques.
Sandrine Foulon, il y a quand même une dimension sociale. Je prends deux exemples. Il y a d'abord la personne seule qui n'a pas de vie de famille et dont la vie sociale est dans l'entreprise. Le télétravail pour elle est une difficulté supplémentaire. Et puis même le collectif permet un espèce de, pas de contre-pouvoir, mais en tout cas entre salariés et employeurs, des choses que le télétravail atomisé empêche, non ?
Absolument. Mais ce que je disais, par exemple, dans un schéma classique, on ne parle pas de pandémie, une personne qui refuse le télétravail ne fera pas de télétravail. Hein. C'est pas une obligation. C'est, encore une fois, là, il y a un accord national interprofessionnel qui a été signé en 2020, qui rappelle bien qu'il y a un double volontariat de l'employeur
si
et des salariés.
Si l'usage s'installe, les entreprises vont avoir des locaux flexibles, donc moins de bureaux. Donc on le voit pour les très grosses boîtes de la Silicon Valley où le télétravail est maintenant installé comme une chose
première, c'est vrai. Il y a cette dimension-là aujourd'hui avec effectivement la réorganisation des bureaux en flex office. On combine ça avec des accords de télétravail. Et c'est vrai que si vous arrivez dans une entreprise et on vous dit ça sera 3 jours, mais normalement, si ça ne va pas et si vous dites écoutez, moi je suis seul ou j'ai besoin d'avoir un collectif de travail, normalement, un employeur raisonnablement devrait l'entendre.
Qu'à l'inverse de ce dont on parlait, c'est le désir du télétravail que ne peuvent pas réaliser ceux qui sont dans des métiers physiques.
Oui, alors c'est effectivement la limite du problème, c'est que au stade actuel des technologies, ça échange, ça évoluera peut-être un jour, et puis telle qu'est construite l'économie française, avec beaucoup de métiers que je citais, hein, dans le soin, le tourisme, le bâtiment, le transport, etc., et bien effectivement, il y a sans doute entre 60 et 70% de métiers qui ne sont pas télétravaillables, en tout cas, peut-être occasionnellement, mais généralement pas télétravaillables, enfin en tout cas pas sur une base régulière. Donc effectivement, il y a une question qui se pose. D'inégalité entre les salariés dans un contexte quand même où globalement, c'est ce qui ressort de toutes les études auprès des DRH en particulier, les salariés ont de l'appétence pour le télétravail. Ça ne veut pas dire télétravailler 5 jours par semaine, mais globalement, il y a une demande sociale forte à telle enseigne que ça devient maintenant une revendication au niveau des embauches. Dans une embauche, on ne demande plus que la rémunération, la positionnement hiérarchique, les perspectives professionnelles ou autres, mais aussi combien de jours en télétravail. J'ai discuté l'autre jour avec un chef d'entreprise, donc d'une petite entreprise, qui voulait recruter un jeune ingénieur, qui était à Aix-en-Provence, et son revendication, c'est « je veux travailler en restant à Aix-en-Provence ». Donc le chef d'entreprise qui a des difficultés de recrutement gigantesques, il a le choix entre ne pas embaucher le gars et perdre éventuellement du chiffre d'affaires, ou alors l'embaucher, mais dans des conditions qu'il juge dégradées.
Enfin, là, ça, c'est une vision quasi idyllique, mais sans doute...
C'est la vérité, oui. C'est la réalité pour ceux qui peuvent télétravailler, pas pour tous ceux qui peuvent.
Mais quid des télétravailleurs qui ont le sentiment qu'il y a une espèce de porosité jusqu'à une confusion entre la sphère privée et la sphère professionnelle et qu'ils deviennent taillables et corvéables éventuellement jusqu'à des heures indues? C'est pas aussi une réalité du télétravail, ça? Ou ça si. Peut ne pas l'être?
Si, ça peut être.
Est-ce que ça ne peut pas l'être, plutôt?
Oui, je rappelle que depuis 2016, on est censé avoir un droit à la déconnexion qui reste assez virtuel. Ouais. Et l'idée, c'est ça, c'est de dire on répond pas à un email à 23h30. Donc voilà, c'est ça le problème, c'est la problématique d'être en télétravail. Et le télétravail, encore une fois, tout le monde a une appétence pour ça. Je pense que c'est quand même une flexibilité, une liberté. On peut travailler d'où on veut, mais il faut que les choses soient claires, précises, encadrées, et que effectivement, on soit pas corvéable à merci, et que on soit pas hyper contrôlé. C'est ça qu'il faut régler dans un accord, tout bêtement.
Qu'en pensent les femmes, Nadia? Télétravail et emploi des femmes et évolution de leur carrière.
Oui, parce que cette pandémie, dans son ensemble, dans sa globalité, elle a freiné et elle a menacé le travail des femmes. Mais c'est tout le paradoxe qui a été souligné dans le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité. Il a été rendu public il y a une semaine. On apprend plein de choses. On apprend, entre autres, que les femmes représentent la majorité des salariés dans les métiers d'aide à la personne, dans la propreté, dans l'enseignement. Elles constituent 87% des personnels d'EHPAD. Ce sont des emplois très importants, on le sait, qui ne sont pas télétravaillables. Les femmes sont aussi surreprésentées dans les secteurs qui ont été violemment touchés par la crise, comme le tourisme, l'hôtellerie-restauration. Elles sont très souvent à temps partiel, ce qu'on appelle des temps partiels subis, ou en contrat précaire. Elles ont donc servi, on l'a bien vu cette année et l'année précédente, de variable d'ajustement. Une salariée sur deux qui était en intérim ou en CDD au début du premier confinement ne travaillait plus, quelques mois plus tard à peine. Et donc pour celles qui ont conservé leur emploi, les conditions de télétravail dont on parlait, elles ont été plus éprouvantes que les hommes à statut égal. Ça commence dans l'espace même du foyer. En moyenne, un homme sur deux dispose d'une pièce entièrement dédiée pour le travail, pour pouvoir s'isoler, contre à peine un quart pour les femmes. C'est assez peu. Elles sont plus souvent interrompues par les enfants quand il y en a. Elles prennent moins souvent la parole en visioconférence. Elles sont aussi plus souvent interrompues par le travail domestique. 6 femmes sur 10 ont dû limiter leur temps de travail pour s'acquitter des tâches domestiques. Foulon, ça c'est le diagnostic. Quelles peuvent être les solutions? Est-ce qu'on a pris la mesure déjà du phénomène et qu'est-ce qu'on peut faire?
Bah là, vous avez tout dit. C'est vrai qu'on a vu que les femmes qui télétravaillaient à compétences égales étaient défavorisées par rapport aux hommes. Donc là, encore une fois, je me répète, mais il faut encadrer ça. C'est-à-dire que normalement, vous devez vous assurer, dans un cadre de télétravail classique, un employeur doit s'assurer qu'une personne dispose, par exemple, d'une pièce et pas qu'elle ne va pas travailler sur son lit ou avec trois colocs.
Dans la cuisine, avec trois enfants.
C'est ça qu'il faut aller vérifier. Et puis, il faut en discuter et il faut voir comment se passe la situation. Sinon, on va arriver à des situations, encore une fois, très dégradées.
Vous n'êtes pas forcément que mon employeur aille vérifier chez moi quel est le nombre de mètres carrés dont je dispose, dont ma femme dispose, etc. Enfin, voilà, je crois qu'il faut en rester quand même à des négociations pas trop intrusives.
Mais c'est ce qu'offrent les entreprises. Et c'est même mieux pour des questions d'assurance et pour des questions de conditions de travail.
Je pense que c'est une question de négociation collective et individuelle. La loi aujourd'hui, notamment depuis la loi El Khomri de 2016, pose un certain nombre de principes qui sont le contrôle de la charge de travail, le droit à la déconnexion. Je crois que la loi doit s'arrêter là, parce que ce sont de bons principes. Et ensuite, ces principes sont déclinés là où il faut qu'ils soient.
Pascal Dibi.
On a pu constater que dans la première vague là, du Covid, dans les pays anglo-saxons, notamment en Angleterre, quand